Olivier Rollin, merci beaucoup de me recevoir chez vous. Nous parlons donc de Circus 1 qui vient de sortir au seuil, imposant volume que nous avons là sur la table. Alors Circus 1 retrace un parcours écrit, c'est-à-dire qui commence avec la trace écrite, et pour vous en l'occurrence par des tribunes politiques dans la presse, dans Libération. C'était en 1980, vous aviez 33 ans. La littérature a-t-elle commencé pour vous par l'écriture de tribunes politiques ?
Oui, factuellement, c'est comme ça. Maintenant, je fais une grande différence quand même entre les tribunes politiques que je faisais, qui sont assez vite devenues plutôt sporadiques, qui sont restées très enflammées, très violentes, on peut dire, mais enfin, qui est un genre que je n'ai pas... que j'ai cessé de cultiver assez vite, voilà. Donc je suis venu en effet à l'écrit à travers ça, mais je me suis séparé de cela aussi. Enfin, je me suis éloigné de cette espèce de je n'aime plus trop maintenant. Si je les ai mis dans le bouquin, c'est à la fois parce que ça fait, en effet, ça fait partie de mon histoire, de ma généalogie, enfin de la généalogie de mon écriture, si je puis parler de façon aussi prétentieuse, emphatique, mais bon. Et puis d'autre part, parce que je pense que de façon un peu vaniteuse peut-être, mais je pense que formellement ces tribunes ne sont pas trop mauvaises, pas trop mal écrites. Mais encore une fois, je me suis écrire pour moi consistait quand même à m'éloigner de cette espèce de véhémence imprécatrice que je n'aime plus, quoi. Voilà. Mais ce que je veux signaler aussi, c'est que c'est quand même d'une certaine manière doublement, enfin, ces choses-là se situent à l'origine de ma vie d'écrivain, par la chronologie, quoi, mais d'autre part aussi parce que il est vrai que je l'ai dit souvent, mais je le répète d'ailleurs dans ce livre, je suis devenu écrivain pour réfléchir. Au début, c'était comme ça, pour réfléchir. Parce que je venais de la politique, extrême, et pour y réfléchir, pour en prendre la mesure, quoi, voilà. Donc, d'avoir commencé par des choses qui portaient la trace de ça, par des cris qui portaient cette trace-là, est assez normal.
Parce que avec les tribunes, il y a aussi des reportages. Enfin, juste après les tribunes, il y a des reportages. Donc, vous partez à l'étranger, vous faites des reportages, notamment donc en Amérique du Sud, dans les pays d'Europe de l'Est, notamment en Pologne. Et là, c'est plus des tribunes. Là, on est dans du reportage.
Oui, tout à fait, on a du reportage. Encore que mon défaut a longtemps été je m'en suis aperçu en relisant. De mêler trop mes opinions, mes emportements au reportage que je faisais, quoi. C'est assez clair. Ça m'a amené d'ailleurs à supprimer certains articles. J'en ai supprimé certains parce qu'ils étaient vraiment plats. Et par exemple, tous ceux que j'avais écrits sur la guerre des Malouines ou des Falklands là étaient vraiment extrêmement plats. J'étais même un peu consterné. Je suis gêné vis-à-vis des lecteurs de l'époque du Nouvel Observateur, puisque c'était dans le Nouvel Observateur, parce que c'était particulièrement rasoir mes histoires. Et puis d'autres portaient trop la marque, en effet, d'une espèce de volonté partisane. Enfin bon, voilà. Par exemple, j'avais écrit des reportages sur les guerres au Tchad, là, au moment où Kadhafi attaquait le nord du Tchad. Il se trouve que je n'ai jamais été kadhafiste, contrairement à un certain nombre de gens en France qui trouvaient beaucoup de vertu à ce personnage. À commencer par notre ministre des Affaires étrangères de l'époque, bon, Roland Dumas, pour ne pas le nommer. Bon, moi, je n'ai jamais aimé Kadhafi, mais ça se voyait un peu trop dans mes reportages. Voilà. J'ai oublié votre question. Donc oui, ensuite, j'ai fait des reportages avec quelquefois trop d'implications partisanes dedans.
Alors, dans les reportages que vous avez mis, du coup, dans Circus, que je connaissais pas, j'étais très surpris par leur qualité littéraire, grande qualité littéraire. Et du coup, je me suis posé cette question. Est-ce que c'est pour cette raison, la qualité littéraire, que vous les avez mis dans vos œuvres complètes, puisque Circus, c'est le début de vos œuvres complètes?
Bah, j'en ai mis certains parce qu'ils me, encore une fois, de façon peut-être un peu, pas vaniteuse. C'est parce que certains me paraissaient littérairement bien, quoi. Par exemple, ceux que j'ai fait, surtout le premier que j'ai fait sur cette éruption volcanique catastrophique là en Colombie. On a oublié tout ça maintenant parce que c'est une catastrophe efface celle qui précède, mais d'un volcan qui s'appelait le Nevado del Ruiz et qui a rayé une petite ville, Armero, de la carte. Bon, alors par exemple celui-là, oui, je pense qu'il est bien écrit, quoi, comme on dit. Donc je l'ai mis pour des raisons littéraires. Un reportage que j'ai fait aussi sur Kaboul, je pense qu'il est littérairement convenable. Je ne dis pas que c'est un très grand morceau de prose, etc., mais enfin, je pense qu'il a une dignité littéraire. J'en ai mis d'autres parce qu'ils font partie de mon histoire et de mon histoire, encore une fois, en tant qu'écrivain. S'ils font partie de mon histoire personnelle, c'est pas très important, mais ils font partie de mon histoire en tant qu'écrivain. Par exemple, j'ai supprimé les 9 dixièmes de ce que j'ai fait en Argentine, mais je n'ai pas voulu tout supprimer dans la mesure où les reportages que j'ai fait en Argentine sont très directement à l'origine, par exemple, de mon second livre, Barre des flots noirs. Donc ils font partie de la généalogie de ce livre, donc j'en ai gardé certains, voilà. Les reportages qui figurent là figurent soit pour la raison que je les trouve convenables littérairement, soit pour la raison qu'en étant plus faible, ils sont quand même importants dans ma petite généalogie personnelle.
Oui, parce qu'il y a cette question, Circus fait à peu près 1600 pages, d'avoir mis 1900.
Presque 2000 même.
Je vous retire des pages en plus. D'avoir mis avant Phénomène Futur, votre première œuvre fictionnelle, d'avoir mis ces 120 pages d'articles et de choses publiées, enfin de textes publiés dans la presse, et je me suis vraiment posé la question, voilà, est-ce que c'est votre entrée en écriture, est-ce que votre entrée en écriture, vous la considérez par ces articles plutôt que par Phénomène Futur?
Non, enfin, je veux dire, ma vraie entrée en écriture, mon vrai, mes premières armes, quoi, si je puis dire, c'est Phénomène Futur. Jusque-là, j'étais juste un type qui écrivait de temps en temps dans les journaux, c'est tout. Bon, mais vu rétrospectivement, ces 120 pages, ces tribunes, ces reportages, je ne sais plus, il y a peut-être quelques débuts, quelques critiques littéraires aussi, je ne me souviens plus. Il y en a par la suite, mais enfin, tout ça fait, rétrospectivement, ça fait partie de mon apprentissage. Mais c'est vraiment les tout premiers pas, quoi. Je crois que c'est honnête, je crois que c'est véridique et c'est honnête de mettre ces textes-là. Mais disons que c'est pas quand même le plus important. Enfin, je sais pas, peut-être que rien n'est important d'ailleurs, mais enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas le plus important.
J'ai trouvé une étrange similitude, notamment dans les reportages, donc parus dans la presse à cette époque-là, donc au début des années 80. J'ai trouvé une grande similitude de style, de ton, presque de syntaxe, déjà les grandes références littéraires qui sont dedans. Et j'ai trouvé une similitude avec Bakou, Dernier Jour, un de vos derniers livres, paru chez Fiction et Compagnie. Et j'ai trouvé vraiment des similitudes. Est-ce que vous en avez conscience? Et en écrivant Bakou, Dernier Jour, vous êtes remémoré ces articles que vous aviez écrits pour la presse?
Non, très franchement, non. Et même ce que vous me dites est certainement vrai, puisque cela vous a frappé, ou en tout cas comporte une part de vérité, et ça veut dire qu'il y a tout de même une espèce de nervure, de choses de cohérence qui parcourt ce que j'ai fait, sans doute, puisque vous me le dites, mais en même temps, moi, je suis plutôt... Je pense que j'ai quand même aussi changé, que j'ai évolué. J'ai évolué, bien sûr, à beaucoup d'égards, mais notamment dans mon rapport à la matière de la langue. Enfin, j'espère ne pas tomber dans le classicisme, mais je pense que je suis un petit peu plus classique maintenant, et même pas mal plus classique maintenant que je ne l'étais dans mes débuts. J'avais quand même une affection, alors ça se marque moins évidemment dans les articles, mais dans certains si. Par exemple, le long article qui est intéressant, je crois, enfin, sur la traversée de l'Atlantique par Malcolm Lowry, là, en 1947. Cet article est extraordinairement compliqué, écrit dans un style assez sinueux, spiralé, etc. Un peu un style d'ivrogne laurien. Bon. Alors, je crois que je me suis quand même, dans l'ensemble, éloigné un peu de ces complications dans Phénomène Futur, par exemple, je le mets aussi en avertissement, il y a des choses qui me paraissent excessivement obscures. J'avais un goût pour l'ésotérique, quoi, c'est vrai, et je le dis là aussi, je vais répéter ce que je dis dans un avertissement, mais j'avais beaucoup de références, beaucoup de modèles, mais disons, dans mes modèles, il y avait Mallarmé, bien sûr, d'où le titre Phénomène Futur de mon premier livre. Et puis il y avait Carlo Emilio Gadda, la connaissance de la douleur. Bon, disons que c'est deux langues très très compliquées. Alors, disons, dans Bakou, je ne dédaigne pas d'utiliser une langue simple, une langue qui est un peu, je ne dédaigne pas la clarté. Voilà, je la dédaigne beaucoup moins de mes jours que dans ma jeunesse. Ça ne veut pas dire que je fasse mienne les vieilles maximes, les vieux adages du classicisme, tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, etc. Hein, mais j'accorde plus de prix à la clarté, oui.
Pour terminer sur ces articles, que je ne connaissais pas du tout, c'est vrai qu'ils ont une certaine importance pour moi, et pour continuer avec le lien avec Bakou dernier jour, vos articles de ces années-là, donc au début des années 80, ils me laissent l'impression d'une... Enfin, en tout cas, les articles sur la Pologne, notamment sur les pays d'Europe de l'Est, ils me laissent l'impression d'une fascination, mais une fascination négative sur le fonctionnement des pays communistes. Et je retrouve cette même fascination négative dans Bakou dernier jour. Mmh. J'ai trouvé assez curieux de vouloir mourir à Bakou. Je trouve qu'il y a des lieux plus glamour. Mmh. Et je sens une symbolique cachée, du coup, derrière ça. Sans doute votre passé, enfin votre mmh. jeunesse, vos émotions de jeunesse. Est-ce qu'il y a une symbolique cachée?
Oh, elle n'est pas très cachée, enfin... Je fais partie de cette génération de l'après-guerre, ceux qui avaient 20 ans en 68, quoi, grosso modo, et qui, je pense, a été la dernière à être si massivement et si profondément marquée par les idéaux communistes, voilà. Quel qu'il soit, je veux dire, certains étaient pro-cubains, moi j'étais pro-chinois, etc. J'étais pas pro-soviétique, j'étais même anti-soviétique, mais enfin, étant donné le tour que prenait l'histoire, j'étais anti-soviétique. Bon, mais il n'en reste pas moins que c'était ce qui a marqué ma génération, c'était ça, c'est les idéaux communistes, et là, évidemment que la Russie était quand même l'inventeur des idéaux communistes. Bon. Enfin, pas l'inventeur, mais enfin, en tout cas, c'était le pays où ça avait été mis en pratique pour le meilleur et pour le pire. Et surtout pour le pire. Bon, voilà. Donc le communisme a compté énormément. Donc évidemment que la Pologne, ça a été ma première, expérience grandeur nature de désintoxication, si je puis dire. on voyait bien que nous avions échoué, que l'idée d'une révolution armée en France, etc., était une... Enfin, on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas là-dedans, mais que le communisme en général, qui était en crise à l'échelle de la planète, c'était une chose qui nous apparaissait probable aussi, mais pas absolument sûre quand même. La Pologne, ça le manifestait, voilà, le premier un syndicat de masse dans un pays où il n'y avait que des syndicats officiels, etc., et qui réussit finalement, vous connaissez l'histoire de la Pologne, de celui d'Arnoch, bon, cela m'a passionné, mais cela m'a passionné comme une, cela m'a enthousiasmé même, je peux dire, parce que c'était dans la suite, c'était l'inverse si l'on veut, mais c'était pas totalement l'inverse que ça. Après tout, c'était des ouvriers, c'était des ouvriers des chantiers navals, c'était des grandes grèves, etc. Enfin, c'était à la fois la suite et le contraire de tout ce que j'avais rêvé. Alors, il y avait une charge à la fois intellectuelle, émotionnelle, etc., très fort. Ça, je vous parle pour du début, quoi, des articles que j'ai faits sur au moment de celui d'Arnoch, etc., des reportages. Maintenant, vous me parlez de Bakou et de maintenant. Oui, je reste. Je passe beaucoup de temps en Russie, par exemple, pour des tas de raisons, mais des raisons personnelles aussi. Ça reste un pays qui, contrairement à beaucoup de Français, me passionne. Je ne dis pas que j'aime le gouvernement actuel de la Russie, hein, je vais être bien clair, mais c'est quand même le pays, oui, en effet, le pays tragique par excellence et le pays où cette grande épopée de la Révolution est devenue voilà, une des grandes tragédies du XXe siècle. Quoi. Et donc, à ce titre-là, ça reste, ça continue à être quelque chose qui, dans mon histoire, bah, ma petite histoire à moi, minuscule, mais dans ma formation à moi, est très important. Alors, à part ça, si j'ai prétendu mourir pour rire à Bakou, c'est à cause d'un jeu de mots, etc. Ça aurait pu être autre chose. Hein. Bon. Mais voilà, il est vrai que les pays ex-communistes m'intéressent.
On reviendra après sur Bakou, dernier jour. On terminera l'interview avec ce livre. Alors, votre première œuvre fictionnelle, c'est Phénomène futur. Quand vous écrivez Phénomène futur, est-ce que vous aviez imaginé ce basculement de votre vie créative vers le roman ? Parce que c'était un basculement.
Non, je ne crois pas. Je dis je ne crois pas parce que on est inévitablement amené à reconstruire voilà, complètement le passé en fonction de ce qu'on pense à un moment donné. C'est très loin, quoi. Mais je ne crois pas, franchement. Je pense que je voulais prendre la mesure de ce que j'avais vécu, de ce que j'avais cru, de ce que nous avions vécu et cru collectivement, c'est-à-dire cette année, 6-7 années, ce qui à l'échelle, encore une fois, de nos âges, de nos vies d'alors, et c'était beaucoup, 6-7 années, c'était presque le tiers de nos vies, on avait 20 et quelques années. Bon. Alors, voilà. Ces 6 ou 7 années d'engagement presque total, très illégal dans mon cas, plusieurs années dans la clandestinité, etc., de croyance absolue, de sectarisme absolu, de fermeture complète à tout ce qui n'était pas notre croyance. Par exemple, le fait qu'on ne lisait plus du tout, que la littérature avait disparu de nos vies, la musique, enfin tout tard, etc. Enfin, bref, j'ai écrit pour réfléchir, pour essayer de mesurer ce que la radicalité de cette expérience-là. Et je crois qu'à l'époque, je ne pensais pas que ça deviendrait ma vie. Je pensais vraiment que c'était le moyen que j'avais trouvé pour me... pas du tout pour régler mes comptes, mais pour faire un peu le bilan quoi de ces années-là et de ces croyances-là. J'avais à l'époque, et je le dis, je ne sais plus où d'ailleurs, mais enfin, j'avais à l'époque assez peu de considération pour le roman. Donc c'était pas parce que je trouvais que c'était la chose la plus belle du monde que je me suis mis à faire un roman. J'aurais préféré faire de la philosophie. Enfin, je n'ai pas pu faire autrement que cela, qu'un roman.
Mais rétrospectivement, maintenant, ça c'était à l'époque, hein, ce que vous pensiez, mais rétrospectivement, est-ce que vous pensez que Phénomène futur représente vraiment un basculement vers le futur de votre vie ?
Oui, bien sûr, oui. Oui. Oui, c'est en écrivant ce livre, c'est à partir de l'écriture de ce livre, et puis ensuite de beaucoup d'autres choses encore, mais c'est à partir de là, par exemple, que je me suis aperçu en effet que la littérature, même celle que je m'essayais à pratiquer, je ne parle pas seulement des grands écrivains, mais même la mienne, c'était quand même un moyen de réflexion, un moyen, c'était pas... Avant, j'avais tendance à penser un peu sottement que c'était un divertissement, quoi, la littérature. Bon. Tout d'un coup, je découvrais que c'était un moyen de réfléchir, d'approfondir sa réflexion, sa propre réflexion sur l'expérience vécue, sur l'histoire, et que c'était un moyen aussi de transmettre quelque chose. Enfin, je me souviens, je me suis dit, bon, bien sûr, c'est plus, je vais pas me raconter des histoires, je ne fais plus la Révolution, mais d'une certaine manière, peut-être qu'en faisant ça, qu'en écrivant ça, je suis quand même un peu utile à d'autres gens, à des gens qui viendront après moi, etc. Donc j'ai découvert, enfin, j'ai senti, quoi, j'ai aperçu, entreaperçu que la fonction cognitive, la fonction... et peut-être même la fonction libératrice, enfin, pour les autres de la littérature. Donc, à partir de là, j'ai cessé de la considérer comme une chose secondaire, et je pense que j'ai décidé progressivement, s'est faite en moi l'idée que ça allait devenir ma vie. Oui.
Avec un titre, quand même, qui s'appelle Phénomène futur, cette idée d'anticipation dedans, et d'autant plus que vous l'écrivez vous-même, et j'ai pas retrouvé les titres, que vous avez trouvé cette étrangeté dans Phénomène futur, a posteriori, de trouver deux titres de vos futurs romans sans en avoir le projet de ces romans et sans en avoir conscience a posteriori, autrement qu'en 2011, sans doute, quand vous avez fait ce volume Circus. Là, on est doublement dans l'anticipation.
Oui. Les deux titres, alors voilà, il y en a un que j'ai. Je suis sûr qu'il y a le mot. Il y a Méroé dedans, à la fin, là, quand il est question de la recherche du paradis, etc. Ce qui est quand même un nom assez rare. Donc, et à ce moment-là, je ne pensais pas du tout que jamais j'écrirais un livre qui s'appellerait Méroé. Bon, il y a Méroé, mais alors je pense qu'il doit y avoir. Barre des flots noirs dedans. Là aussi, qui n'est pas du tout le. Parce que tout d'un coup, l'idée me serait venue que je ferais un livre qui s'appellera comme ça. Mais. Barre des flots noirs, je ne suis pas entièrement sûr. Mais Méroé, oui. Ça pourrait avoir un rapport avec, vous savez, certains des livres de Pierre Bayard, et par exemple le livre qui s'appelle Demain est écrit et qui m'a servi, enfin qui est un peu à l'origine de Bakou, dernier jour. Bon, on y reviendra peut-être parce que
voilà, effectivement dans Bakou, vous êtes dans l'avion, vous allez sur Bakou et vous êtes en train de lire Demain de Pierre Bayard. Voilà.
J'ai oublié votre question.
Qui posait sur la double anticipation contenue dans Phénomène futur.
Oui, alors anticipation de cette façon-là, anticipation, mais pardonnez-moi.
L'anticipation de votre vie qui va être tournée vers une vie d'écrivain et l'anticipation, presque, là c'est anecdotique voilà, complètement, ça. D'avoir ces deux livres-là, Barre des flots noirs et Méroé, contenus dedans.
D'autre part, encore une autre. Enfin, anticipation, ou en tout cas le premier élément d'une répétition, c'est que j'ai écrit finalement plusieurs livres, deux qui prennent pour objet la croyance révolutionnaire et ce qu'il advient après qu'elle vous a quitté. Phénomène futur, donc le premier, et puis ensuite Tigre en papier qui reprend cela, mais de façon évidemment tout à fait différente, beaucoup moins allégorique, beaucoup plus directe, etc. Bon. Mais donc c'est aussi, si vous voulez, Phénomène futur est une anticipation aussi d'autres livres, et par exemple de celui-là que j'écrirai plus tard.
Parce que, en fait, en lisant Circus, ça m'a vraiment frappé cette idée d'anticipation dans vos textes jusqu'à votre propre mort. Olivier Rollin, dans Bakou, dernier jour, enfin vous en faites l'hypothèse, qui était déjà née d'une anticipation ensuite à l'hôtel Crispin. Capital, qui était paru en 2004. Et je fais l'hypothèse, en lisant notamment les articles de presse que je ne connaissais pas, que cette anticipation à l'œuvre dans vos textes est un miroir de la mélancolie de votre activisme passé.
Pourquoi pensez-vous cela? Est-ce que vous pouvez préciser un peu ça, que c'est un miroir de la mélancolie?
C'est-à-dire que vous anticipez presque, en anticipant notamment dans Bakou sur votre mort, vous vous projetez vers le futur, alors que pour éviter peut-être d'être toujours dans la mélancolie de votre activisme passé, de cette, j'imagine, cette affreuse déception, qui a dû peut-être être un travail de deuil, et ce basculement de votre vie vers l'écriture, vers le roman. Et j'imagine que du coup, il y a, enfin voilà, j'ai senti quelque chose qui est évanescent.
Le futur est une... je vous ai demandé de préciser la question, là, parce que, en vérité, le futur est une dimension qui me tracasse assez peu, qui me concerne assez peu. Je suis pas très différent de la plupart des écrivains, d'ailleurs, mais simplement, moi, je le revendique. Je suis extrêmement... Je considère que c'est le passé, mon matériau. Et j'emmerde ceux qui pourraient me dire que je suis passéiste, etc. Je suis pas passéiste, je ne suis pas un amant du passé, mais simplement, mon matériau, et le matériau, je crois, de la littérature et du roman, c'est ce qui cesse d'exister, ce qu'on a connu et qui cesse d'exister. Enfin, c'est en tout cas, s'il y a une responsabilité de l'écrivain, il me semble que c'est celle de perpétuer par l'écrit ce qui cessera d'exister avec nous, quoi. Voilà. Alors c'est plutôt quand même la dimension fondamentale, la passion fondamentale de mon écriture. Je pense que c'est la mélancolie, c'est vrai. Je précise tout de suite que je crois que c'est aussi l'ironie. Je n'aimerais pas, il m'est arrivé de camper dans des positions qui sont simplement mélancoliques. Par exemple, ça m'est arrivé dans Port-Soudan, et c'est pourquoi j'aime moins ce livre maintenant. Donc mélancolie et ironie, il me semble que ce sont... Enfin, mais l'une passe en l'autre, quoi, voilà.
Dans Circus, on trouve ce drôle de livre qui s'appelle « En Russie », que je ne connaissais pas non plus, un récit de voyage. J'ai l'impression que je l'ai lu comme votre premier récit de voyage hors journaliste. Est-ce qu'il y avait, pour écrire En Russie, une réflexion proprement littéraire à l'œuvre dans ce type de récit chez vous, ou est-ce que c'était le voyageur journaliste qui prenait le dessus avec ses automatismes?
Non, enfin, au départ, le projet, c'était un projet, en effet, un peu de reportage, enfin... Il faut se représenter qu'à l'époque, on connaissait presque rien de ce monde immense qu'était l'URSS. Enfin, où on connaissait grosso modo un peu les choses politiques, etc. Mais on ne savait pas à quoi ressemblait la vie. Enfin, moi, je ne savais pas. En tout cas, je ne savais pas à quoi ressemblaient même les villes, les machins, les appartements, les trucs. Enfin, bon, donc j'avais envie je suis parti là-bas pour essayer de rendre compte un peu, tout petit peu, de ça, des choses, comme je le dis, je crois, dans la préface, les modestes choses, voilà, à quoi ça ressemble, les choses là-bas. Voilà.
Oui, je vais vous citer, c'était « Mon propos était d'apprendre de mes yeux à quoi ressemblaient les fruits du marché et les marchés eux-mêmes, s'il était possible de boire un demi quand il faisait chaud, ou un chocolat quand il faisait froid, si les pêcheurs à la ligne étaient bavards, et s'il y avait des amoureux sur les bancs publics, si les gens vous souriaient dans la rue ou bien vous marchaient sur les pieds, bref, tout ce dont je n'avais pas la moindre idée, justement, et qui se trouve d'ailleurs en deçà des idées, du côté de ce qui permet qu'il y ait aussi, d'un pays, un sentiment.
Oui, voilà, c'était ça que, en effet, qu'était mon projet. Donc, si l'on veut un projet d'une espèce de vaste reportage ou livre de voyage, bon, voilà. Mais ce que j'ai découvert, enfin, il me semble, votre question m'invite à insister peut-être là-dessus, c'est une certaine une certaine façon d'écrire, une certaine... jusqu'à présent, j'avais plus écrit autour d'idées et de sentiments, du passage des sentiments aux idées ou des idées aux sentiments. Mais voilà, j'avais écrit sur la révolution, le deuil de la révolution, etc., etc. Et là, en effet, j'écrivais sur les choses. Et j'ai découvert, peut-être pas, là aussi, c'est jamais un éblouissement, c'est pas une révélation, etc. Mais j'ai expérimenté et commencé à découvrir en tâtonnant qu'il y avait aussi une écriture qui, une écriture descriptive, une écriture un peu modeste, une écriture un peu, alors à l'époque, je connaissais pas Francis Ponge, etc., hein, mais, quelque chose dans cette direction-là, voilà, que c'était bien aussi, pas simplement de parler du deuil de la Révolution, mais que c'était intéressant de parler, je sais pas, d'un maillot de bain, d'une pomme sur un marché soviétique, elle ressemblait pas du tout aux pommes qu'on voyait chez nous, enfin un peu quand même, mais pas vraiment, les œufs très différents, tout blancs, des coquilles toutes blanches, plus petits, etc. Bon, voilà, donc une écriture. L'expérimentation d'une écriture modeste, concrète, terre à terre d'une certaine façon, qu'il faut pratiquer sur le motif, comme on dit en peinture, quoi. Non pas qu'on va pas écrire exactement le passage là dans la rue, mais il faut qu'on trouve deux trois mots, il faut qu'on réussisse à agripper justement la chose, la vision, le visage, etc., avec les notes qu'on prend très rapidement. Bon, voilà, donc découverte de ce type d'écriture que j'aime beaucoup, que j'ai ensuite fait pas mal d'autres reprises, et qui était justement peut-être aussi un pas vers, tout à l'heure j'ai dit, l'évolution vers une certaine acceptation et même recherche de la clarté. Je pense que ceci m'a appris la beauté de la clarté, qu'il y avait de la grandeur là-dedans aussi.
C'était la partie sur en Russie. On va attaquer le gros morceau qui est l'invention du monde. Mmh. Vous dites que l'invention du monde est considérée comme votre chef-d'œuvre. Et effectivement, il est considéré comme votre chef-d'œuvre. Je le considère comme votre chef-d'œuvre. Ça ne vous étonnera pas. Maintenant, pourquoi est-il considéré comme votre chef-d'œuvre? Pourquoi vous aussi, vous le considérez comme votre chef-d'œuvre? Est-ce que c'est pour sa grande complexité? Parce qu'il est d'une grande complexité. Est-ce que c'est pour son ampleur? C'est sans doute le livre le plus massif que vous ayez écrit.
C'est pour tout ça. Enfin, disons, la taille importe peu. Mais enfin, il se trouve, en plus, c'est le plus long livre que j'ai écrit. Mais enfin, c'est pas tellement pour ça. C'est parce que, oui, parce qu'il est très... encore une fois, je veux pas avoir l'air de me hausser du col, hein, mais je suis obligé de dire pourquoi est-ce qu'il est... Je suis obligé de dire quelques qualités de ce livre pour répondre à votre question. Bon, il est incontestablement très... le plan en est très complexe puisque grosso modo, il superpose une espèce de description du monde, en effet, avec la lecture d'une bibliothèque cachée, cryptée, etc. Bon, cachée, pas toujours cachée, d'ailleurs, quelquefois, elle apparaît très explicitement, mais voilà, il y a un niveau... voyage à travers les livres, un niveau un peu plus sous-jacent, et puis un niveau obvie qui est une description d'une journée de la planète. Bon. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, hein, mais disons que la structure fondamentale, c'est ça, et puis il y a aussi l'adresse comme ça, enfin, le fait que ce discours est adressé à des jeunes femmes, donc à des muses, donc il y a toute une mise en scène qui réfère à la fois, oui, à la mythologie classique gréco-latine des muses, etc., de l'inspiration par les muses, mais aussi aux mille et une nuits, à Scheherazade, enfin, bon, bref, donc on peut dire que sa structure est vraiment assez savante, voilà. Mais ça ne ferait pas non plus, ça ne suffit pas de faire un livre qui a une structure savante pour qu'il soit un livre important. je pense que ce qui le rend, ce qui fait que c'est un livre qui, je crois, en effet, a un peu d'importance, c'est d'abord que ça n'avait pas été tenté. Je ne crois pas. Une description, voilà, d'une journée du monde, c'est quand même très ambitieux. Alors là aussi, ça suffit pas. Hein. Je veux dire, il y a des tas de choses qui n'ont pas été tentées parce qu'elles ne méritent pas d'être tentées, ou peut-être mériteraient-elles de l'être, mais d'être mieux tentées. Enfin bon, mais quand même, voilà, c'est un projet un peu assez mégalomane et qui était un projet nouveau, neuf. Alors ensuite, il y a des tas de gens ils ont raison d'ailleurs, mais qui ont parlé de littérature monde, etc. Je dois dire que quelquefois, je suis un peu étonné qu'ils ne me citent pas parmi leurs antécédents, parce que je crois que j'ai vraiment tenté quelque chose qui ne se faisait pas et qui était en effet d'essayer de mettre le monde dans un livre. Bon. Alors, une raison, mais plus fondamentalement, je crois que l'importance et la beauté du livre, s'il en a une, c'est d'être si polyphonique, quoi. Enfin, j'ai voulu très consciemment, comme je voulais parler du monde entier, j'ai voulu aussi idéalement écrire dans toutes les langues du monde, mais ça, naturellement, c'est pas possible, mais au moins, c'est pas possible, d'abord parce que je ne les connais pas, et puis d'autre part parce que ce serait illisible, bon, mais j'ai voulu au moins qu'un écho, en effet, de pas mal de langues retentisse dans ces pages, donc on trouve quand même beaucoup d'anglais, d'espagnol, de portugais, de tas de choses, il y a même du birman, etc., enfin bon, bref. Mais surtout que les registres, les tons, les styles soient extrêmement variés. C'est-à-dire que c'est, vraiment ça va, il y a des passages qui sont dans une langue néo-épique, si je puis dire. Il y a des passages qui sont écrits comme de la comédie de boulevard, il y a des passages qui sont écrits tout à fait volontairement, je pense, je sais pas, par exemple, il y a des descriptions d'espèces de soirées mondaines au Chili à l'époque, il se trouve que c'est au Chili, mais enfin, c'est au Chili de Pinochet en plus à l'époque, bon, que j'ai écrites là vraiment dans le style de la presse, pourtant je ne la connais pas tellement, je ne la pratique pas tellement, mais enfin la presse, je sais pas comment on appelle ça, la presse people, quoi, bon, avec des adjectifs dans le genre fantastique, l'adorable, Maria Luisa, etc., dans une robe de dentelle délicieuse, etc. Enfin bon, bref, il y a des passages qui sont écrits dans des styles cons, comme ça. Il y a des passages qui sont écrits... il y a des passages extrêmement triviaux. Il y a des passages en langue... Katharevoussa, comme on dirait du grec, enfin en langue sacrée, presque, etc. Voilà, j'ai essayé de mélanger... vraiment beaucoup, beaucoup de registres d'écrits de langue, et je crois que pour ça, c'est un livre assez... Enfin, sa palette est très vaste, voilà.
Pour écrire ce livre, il y avait donc l'usage de... environ 500 journaux, donc c'est une documentation enfin énorme, il a fallu les traduire, enfin voilà, il y avait toute il fallait écrire aux bonnes personnes dans les consulats pour recevoir la presse du bonjour, enfin tout ça c'était une infrastructure quand même considérable, mais moi ce qui m'impressionne c'est aussi la vaste documentation, vous avez une gigantesque documentation, et je m'étais dit que votre gros problème pour l'invention du monde, fut de lier toute cette documentation, de lier toute cette matière. Et là, c'est ce dont vous venez de parler, les différentes strates, la polyphonie de l'écriture. Et est-ce que c'est dans ce travail de lien, du coup, de mise en lien, que c'est là précisément la création fictionnelle de ce livre, outre la le fait d'utiliser différents registres de langue et d'avoir toute une palette fictionnelle assez importante, est-ce que c'est ce travail de lien, de mise en lien, de mise en fiction, du coup, de la réalité?
Oui, tout à fait. Oui, je pense que c'est ça le... d'avoir trouvé comment toute cette énorme masse en effet de données, d'histoire, de noms, de visages, etc., allait pouvoir être autre chose qu'un collage ou un patchwork, comment ça allait, quel allait être le mécanisme fictionnel, d'avoir trouvé ça, ça a été le nœud. Et en l'occurrence, c'est assez marrant parce que je me souviens, je n'ai pas l'habitude je n'aime pas considérer la littérature, et je ne la considère pas d'ailleurs comme une activité qui ait quoi que ce soit à voir avec l'irrationnel, enfin avec le sacré, avec l'inspiration, avec la révélation, avec je n'aime pas tout le langage de la prêtrise appliquée à du sacerdoce appliqué à l'écrivain, quoi. Mais simplement, je me souviens quand même que j'ai eu carrément une espèce de révélation qui naturellement était profane de comment ça allait être. Et c'était j'étais à ce moment-là au Portugal et c'est pour ça d'ailleurs qu'au début, dans les premières pages, il dit il s'adresse à une jeune fille. Tadjik, et puis il lui dit que lui il est au bord de la mer dans un pays dont elle n'a jamais sans doute entendu parler, etc., et qui a un nom d'orange, puisque donc le Portugal, Portocali, c'est l'orange en grec, je m'abuse, bon, grec moderne. Bon, donc voilà, j'étais au Portugal. Ça faisait 2 ans, peut-être 1 an et demi, que je m'escrimais avec cette masse énorme de choses sans avoir encore écrit une ligne. Je faisais des classements, je refaisais des classements, d'autres classements, des fiches, des trucs, etc. Et tout d'un coup, j'ai compris, oui, ce jour-là, à Sesimbra, au Portugal, que ce qui allait organiser tout ça, ce serait en effet l'évocation d'un certain nombre de livres, de livres qui ont, à leur façon, voulu parler du monde. Donc aussi bien Marco Polo que Le Tour du Monde en 80 jours. Ça commence par une espèce de mise en scène ironique du Tour du Monde en 80 jours, mon bouquin là. Bon, voilà. Mais que la masse des choses, des histoires, etc., devrait être prise dans une forme qui reproduirait pour les honorer ou pour s'en moquer ou pour les évoquer, etc., qui reproduirait une bibliothèque, enfin les livres qui ont parlé du monde. Voilà. Alors j'ai pensé à ça, la bibliothèque cachée, et puis j'ai pensé aussi que tout ça serait adressé, en effet, que ce serait un discours de séduction, en fait, que ce serait un discours de désir, un discours de sexe, on peut dire, bon, voilà. Et que ce serait un type qui, pour le parler vulgairement, essaierait d'embobiner, de plaire, de séduire, des jeunes femmes en leur racontant comment est le monde. Bon, les jeunes femmes, elles sont elles-mêmes parties du monde, puisque c'était des visages que j'avais vus dans les 500 journaux. J'avais vu une basketteuse lituanienne, ou je sais plus quoi. Et cette fille est jolie. Donc, mais tiens, voilà, je vais parler à ce numéro 13 de l'équipe de je ne sais plus trop quoi, de Storytel, etc. Donc voilà, j'ai compris cette double chose-là, que je me servirais d'un certain nombre de livres pour donner une forme à cette matière informe que j'avais, et que ce qui aussi lui donnerait une forme, ce serait le désir, et le désir adressé à des jeunes femmes qui seraient elles-mêmes parties de ma description. Bon, j'ai compris ce truc-là, et ça m'a mis dans un tel état d'exaltation, d'enthousiasme. Je vous raconte tout ça, c'est un peu anecdotique, mais c'est marrant, je pense, quand même. Je me suis couché, j'étais absolument enthousiasmé, j'ai compris que j'allais pouvoir faire ce bouquin. Donc je me suis allongé, et je me suis dit, surtout pas commencer, parce que, voilà, là, je le sens tellement bien. Que je ne veux pas être déçu par le début de réalisation, etc. Donc, je reste là dans cette espèce d'état de presque d'extase. Bon, voilà. Et dernière chose là-dessus, ce qui emporte la trace aussi, et d'ailleurs, c'est mon ami Pierre Michon qui a fait remarquer ça l'autre jour dans les rencontres de Chaminadour, auxquelles il m'a invité. le début de Phénomène Sud, le début de l'invention, là, attends, je te vois bien, etc. Ça s'adresse en apparence, et en vérité d'ailleurs, ça s'adresse à cette jeune fille qui est tadjik, qui s'appelle Tarmina, je crois, etc. Je te vois bien, tu as Dushanbe, etc. Tu es du concours de Reine de Navruz, etc. Mais c'est aussi, je te vois bien maintenant, c'est le livre, tout d'un coup, je le vois maintenant, là, comment il va être. Voilà. Donc, oui, c'est ça, c'est la découverte de ce double. De cette double trame là qui est l'invention fictionnelle, enfin de, voilà.
Ce livre est d'une telle complexité que vous lui mettez un post-scriptum, le post-scriptum fameux de l'invention du monde, on pourrait prendre ça presque pour votre premier texte théorique, votre premier manifeste. Et là, vous citez le Italo Calvino, citation que vous faites vôtre, mais que pour exprimer votre ambition, vous exprimez votre ambition par la bouche d'un autre, du coup. Alors, je cite cette citation. « La littérature ne peut vivre que si on lui assigne des objectifs démesurés, voire impossibles à atteindre. Il faut que poètes et écrivains se lancent dans des entreprises que nul autre ne saurait imaginer si l'on veut que la littérature continue de remplir une fonction. » Effectivement, c'était d'une grande ambition et l'invention du monde est une grande réussite parce que cette ambition, il la porte. Est-ce que l'ambition qui prévalait pour l'invention du monde a disparu de vous ?
Pas du tout, mais on n'est pas... on n'a pas toujours, on ne trouve pas toujours les voies... de remporter des grandes batailles. Je crois toujours, en effet, j'aime énormément cette phrase de Calvino. En même temps, elle est très absolue. Je pense qu'il y a aussi de la littérature, après tout, qui ne se fixe pas des buts presque impossibles à atteindre. C'est de la grande littérature, enfin. Mais quand même, que la littérature, au fond, doit tenter l'impossible, qu'il y a quelque chose de prométhéen ou de... d'Icarien en elle, satanique d'ailleurs, je le crois profondément et j'espère absolument, j'ai toujours ce désir-là, ce désir prométhéen ou satanique ou icarien, mais il est vrai que depuis lors, je ne l'ai pas trouvé à le mettre en œuvre, quoi, voilà. Mais encore une fois, il suffit pas de le vouloir, hein. c'est assez, il faut tout un concours de circonstances. Mais je n'aimerais pas mourir sans avoir retenté une entreprise aussi mégalomane. Oui.
Est-ce que vous laissez l'impression quand même que vous-même vous dites presque avec nostalgie que c'est que votre chef-d'œuvre est derrière vous, c'est un peu l'impression que vous laissez.
Mais pour l'instant, je pense que en effet, mon livre le plus important est derrière moi. Bon, c'est évidemment une impression un peu mélancolique, ce doute, cette anxiété, si vous voulez, font partie intégrante, complète de ma vie d'écrivain. Enfin, moi, je n'aime pas ceux qui sont assurés. Je n'aime pas ceux qui sont. Je pense, ça me fait penser à ces deux vers de Borges, vous savez, qui dit. Je vais le dire en espagnol avec un mauvais accent sans doute, mais el círculo del cielo mide mi gloria. La humiliación y la angustia son mis instrumentos de trabajo. Donc le cercle du ciel mesure ma gloire, ça c'est l'ambition démesurée, et l'humiliation et l'angoisse sont mes instruments de travail. Bon, alors voilà, c'est humiliant, ou en tout cas c'est peut-être pas humiliant, mais c'est angoissant de se dire ce que j'ai fait de plus grand est derrière moi. Mais ça fait partie de mes instruments de travail, l'angoisse. Et ça me porte à... Ça, entre autres, me porte à espérer, à souhaiter de tout très ardemment d'avoir encore une grande montagne à gravir. Voilà, et je vous verrez, nous verrons, mais j'espère bien que je le ferai. Au demeurant, encore une fois, je répète, ce n'est pas pour autant que je considère les autres livres plus, disons, d'un rayon d'action plus faible que j'ai écrit comme non significatif. Hein. Je crois que Petit Grand Papier est un livre plus classique, si l'on veut, mais très franchement, je l'aime bien, quoi, voilà.
Si
je vais passer pour un prétentieux terrible avec votre entretien, non ?
Non, absolument pas. C'est une question
déplairait beaucoup. En tout cas.
C'est une question qui me travaille beaucoup. C'est quelqu'un qui a écrit, à mon sens, enfin et puis au sens de tout le monde, L'Invention du Monde est un authentique chef-d'œuvre. C'est pas juste votre chef-d'œuvre, c'est un authentique.
Au sens de tout le monde. Donc il n'a pas été très bien accueilli. Il a été désingué dans le monde finalement. Il a été, il a été traité très par sous la jambe dans Libération. Il a été considéré comme une espèce d'exploit, mais comme le type qui mange 600 saucisses, quoi. Voilà.
Oui, mais ça, c'était à sa sortie.
Comment ?
C'était à sa sortie, parce que, pour des gens, je suis plus jeune, beaucoup plus jeune que vous, et pour les gens de ma génération, L'Invention du Monde est un sommet.
Ah bon ?
Est un authentique chef-d'œuvre, est un sommet, et du coup se pose. Pour moi, la question de quelqu'un qui a écrit un tel sommet a-t-il toujours en lui l'ambition, une ambition égale d'en écrire un autre ? Et j'imaginais bien que c'est toujours votre ambition actuelle. Et du coup, comment faire, quoi ? Quel est le travail quotidien pour cette recherche-là ?
Il n'y a pas de travail quotidien, il y a une angoisse, je vous dis, une angoisse quotidienne. Il y a une espèce de réflexion, mais comme se mène la réflexion, enfin pour moi en tout cas, quand il s'agit de l'écriture, c'est-à-dire que c'est pas comme une recherche scientifique, c'est pas la recherche du comment il s'appelle celui-là. Une particule élémentaire là.
Welbeck.
Oui, non, mais c'est d'accord. Mais je voulais pas parler de Welbeck. Je voulais parler d'une.
Le boson de Higgs.
Le boson de Higgs, voilà, exactement, qui était un sujet de blague entre moi et Schnozman. Périodiquement, nous trouvons le boson. Nous pensons que nous allons trouver le boson de Higgs dans ce tiroir, sous mon lit, etc. Enfin bref, donc c'est pas de la même façon qu'on cherche le boson de Higgs et qu'on cherche et qu'on se dit il faudrait encore faire un très grand livre. C'est une espèce de d'agitation, de balbutiement intérieur permanent, enfin de projeter un livre, faire attendre qu'un livre vienne, c'est ça, je viens de trouver cette expression, la balbutiement intérieur, mais je pense qu'elle n'est pas mauvaise, c'est un peu comme ça que ça se passe. Tout le temps quelque chose est en train de bon, et je sais que pour moi ça tournera autour sans doute encore de la. Il faut que le monde entier rentre dedans, quoi. Mais je ne sais pas comment. Je ne sais pas encore comment. Je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais pas quelle sera la chose qui pourra nouer de nouveau le monde. Je ne sais pas si ça passera à travers. Quelquefois, je pense aux langues. J'ai envie d'écrire un livre sur. Qui serait une espèce de roman des langues. Bon, mais alors, avec ça, je suis bien avancé. Bon, voilà. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce désir, je l'ai toujours très vivement, ne serait-ce que pour apaiser l'angoisse. L'énergie, je crois que je l'ai encore aussi. Mais je n'ai pas trouvé, encore une fois. Je parlais de début de grande bataille, j'aime bien quelquefois les métaphores comme ça, de la stratégie, etc. On n'a pas, même quand on en a les moyens, un grand stratège n'a pas toujours, ne trouve pas toujours le moyen le couloir qui va lui permettre d'anéantir l'ennemi. Bon.
Vous voulez pas retourner au Portugal pour avoir des idées géniales?
Oui, peut-être. Non, quelquefois j'ai des idées beaucoup plus, de m'isoler dans un endroit vraiment impossible, ou je sais pas, au bord de l'océan Arctique. Enfin, il m'arrive de penser à des de me mettre dans des positions d'isolement et de privation très grande, qui me rendent presque nécessaire quelque chose qui soit, alors là, pour le coup, de l'ordre de la révélation, quoi. Bon, mais je ne crois pas que je ferai ça non plus.
Ma dernière question, ce serait sur justement l'usage des langues étrangères, parce que vous avez beaucoup voyagé, vous pratiquez de nombreuses langues, sans doute imparfaitement, mais néanmoins, vous pratiquez de nombreuses langues. Est-ce que vous n'êtes pas tenté par l'expérimentation du monde, mais par ces différentes langues, à la manière un peu d'un Joyce, ou d'une autre manière, à la manière d'un Pierre Guyotat, par exemple ?
Si, bien sûr que si. Bien sûr que si. C'est ça. Enfin, je ne savais pas que vous me poseriez cette question. Je vous ai dit avant une des choses que une des formes que prend ce balbutiement intérieur à propos d'un livre à venir, c'est ça. C'est réussir à faire une figure qui, enfin, je ne sais pas comment le dire. Enfin, à faire entrer quoi les langues, toutes les langues dans une langue. Bon, voilà. Vous savez, je suis un tout petit peu éditeur aussi, et j'ai publié récemment, j'aime bien rendre hommage à ceux que... voilà, j'ai publié récemment un jeune écrivain qui s'appelle Frédéric Verst.
Que j'ai interviewé.
Ah, ben voilà. Bon, ben vous avez vu. Alors là, j'ai de l'admiration. Là aussi, je pense que ça, c'est une manière de chef-d'œuvre. C'est-à-dire, je le dis pour ceux qui... c'est un livre écrit dans une langue imaginaire... mais c'est pas simplement, c'est toute la littérature, tous les premiers siècles de cette littérature qui n'existe, enfin, cette littérature qui existe, à vrai dire, si, puisqu'il l'a créée. Bon. Donc, d'une langue qu'il a créée aussi, c'est en bilingue, donc mais ça a été écrit dans cette langue Ward, et puis ensuite traduit par lui en français, c'est accompagné d'un lexique du Ward, d'une grammaire, etc. Enfin bon, c'est une entreprise absolument, alors là, pour le coup, la phrase de Calvino s'applique parfaitement à cette œuvre qui s'appelle Ward. Voilà. Eh bien, je suis content d'avoir été l'éditeur de ce livre-là, et j'admire cette œuvre, et j'aimerais faire quelque chose qui soit de ce côté-là, qui soit du côté des langues, oui. Et du côté de Guyotat aussi. Bon, bien sûr, inutile de vous dire que j'ai aussi, bien sûr, de l'admiration pour l'œuvre de Guyotat.
Merci beaucoup, Olivier Rollin, d'avoir reçu ici, chez vous, pour cet entretien.